Une poule sur un mur qui pérore du pain dur, picotée ou grignotée, lève et puis...
Oui, dans l'ensemble,
j'aime ce travail.
Vous êtes de votre situation.
Ce travail est intéressant.
Et le travail est-il intéressant?
C'est tout à fait ce qui me convient.
Instructif?
C'est une bonne place.
Formateur?
On apprend des choses.
Agréable ou
plaisir? Agréable. N'importe qui pourrait faire ça.
Vous plaît-il?
C'est pas fameux comme situation.
Ça n'a vraiment
aucun intérêt.
C'est plutôt monotone.
Que pensez-vous de vos chefs immédiats?
C'est quand même un sale boulot.
Vous défendez-il? Peut-on...
C'est des gens importants. On
est-ce
dépend
que votre chef est compétent?
C'est eux qui commandent.
Est-ce qu'il est sévère sur la discipline?
Ils connaissent leur métier.
Est-ce que tout
je pense qu'en gros,
dernier de votre
ils sont trop préoccupés de leur avancement.
Un directeur
meilleur salaire
ou un directeur moyen?
Le fait d'être bien considéré.
Quelles sont les raisons de
devenir de commande
qui vous semblent les plus valables?
Un travail plus intéressant.
Est-ce que vous pensez
plus de liberté?
Que votre compagnie fait tout ce qu'elle peut?
Oui, vraiment. Elle fait un gros effort. Oh, elle ne s'en occupe pas beaucoup.
Le climat y est-il?
Ça va plutôt très mal. L'ambiance est excellente,
plaisir.
Tout le monde s'entend bien.
Avec ardeur.
L'ambiance est bonne, les gens sont corrects.
Existe-t-il une certaine...
L'ambiance n'est pas mauvaise, mais il y a parfois des histoires.
L'ambiance entre collègues est-elle bonne?
On fait son travail consciencieusement, à un point, c'est
tout. Entre les échelons?
Avec les conditions de travail qu'on a, c'est pas la peine de faire du zèle. Je tutoie tout le monde.
Attachez-vous une importance à la réputation de votre
quelques personnes. Je ne tutoie personne.
Concerné par
épuisé.
Est-ce qu'il y a des
assez fatigué. Un peu fatigué de temps en temps.
Est-ce que vous vous sentez
pas du tout
fatigué en fin de journée?
Souvent, oui. Oui, parfois.
Est-ce
non,
que ça vous
jamais.
D'aller prendre un café avec
quelle
collègues.
Question.
Et puis, quel âge avez-vous? Et puis voilà tout.
Quel âge avez-vous?
Mars,
c'était une poésie de Bernard Heitzig, puisqu'on est toujours dans l'expérimentation justement d'un nouvel habillage. Vous trouvez d'ailleurs tout ce genre de sons extrêmement étranges sur ubu.com si ça vous intéresse. On va passer maintenant au dossier de l'émission, qui est donc le désaliénisme. On est allé voir en fait Stéphane Gatti, qui est une des personnes qui travaille à la Parole Errante à Montreuil. Et qui a notamment réalisé un film sur Lucien Bonafé. Donc Lucien Bonafé, c'était un psychiatre assez fascinant, quoi. Le film est vraiment super intéressant. C'était un psychiatre poète surréaliste et qui croyait profondément dans les vertus subversives de la poésie et dans sa capacité à transformer la société. Et qui à partir de sa rencontre avec les surréalistes et d'autres personnes, a commencé à remettre vraiment en question de manière très très profonde ce qui fondait la psychiatrie à l'époque où il a commencé à travailler, c'est-à-dire dans les années 30. Et la psychiatrie à cette époque-là, c'était quoi? C'était l'asile, quoi, tout simplement. Voilà, c'était une vision extrêmement disciplinaire, concentrationnaire, il utilise le terme, de l'asile. Donc on écoutera tout à l'heure Stéphane Gatti qui nous parle de Lucien Bonafé, comment il a travaillé autour de ce personnage. Lucien Bonafé, il est mort en 2003, juste après que le film ait été réalisé, en fait. Et puis on va également passer un certain nombre d'extraits du travail qu'a fait la Parole Errante autour de Lucien Bonafé et qui se trouve sur le site lucien-bonafé.org. qui est un site sur lequel il y a une très grande quantité de sons qui sont super intéressants sur souvent des paroles de psychiatres ou bien d'infirmiers, puisque là on verra que la place de l'infirmier a été profondément changée par la psychiatrie de secteur et le désaliénisme. Et puis voilà, ça fourmille de sons, c'est passionnant comme documentation. Donc lucien-bonafé.org. Et d'ici là, on va d'abord écouter un reportage qu'avait fait Juliette dans un atelier radio.
Oui, puisqu'en fait, Lucien Bonafé est le père de la psychiatrie de secteur. Et à Paris, il y a différents ateliers, différents lieux de rencontres et de vie qui sont dans la ville et qui dépendent d'hôpitaux psychiatriques. Et donc pour cela, j'ai été à un atelier radio qui est organisé par l'atelier La Passerelle. La Passerelle étant un lieu qui est dans le 5e arrondissement, du côté de Saint-André-des-Arts, et qui dépend de l'hôpital Sainte-Anne. Et donc, ils avaient proposé à différents... C'est un espèce de club de rencontres et d'entraide entre les patients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychiatre, et on fait des activités communes. Ça peut être juste faire des CV, faire de la cuisine, faire de l'atelier photo ou de l'atelier radio. Et donc, ce jour-là, il y avait à la fois un atelier radio qui était plus... on va dire que c'est plus expérimentation sonore et création de slam, rap, chant, limite bouddhiste, mais tout ça en même temps. Et donc, vous allez pouvoir écouter cela. Et cet atelier fonctionne toujours régulièrement. Tout le monde peut y aller. En fait, c'est très ouvert. C'est aux patients, aux malades et à tout le monde qui est intéressé par le sujet, qui peut faire quelque chose là-bas, à la passerelle.
L'enfer,
c'est les autres.
L'enfer, l'enfermement.
La ruru, le gouvernement ment.
Oui, mais l'enfer me ment.
Donc je m'appelle Erwan et je suis animateur. Je travaille pour le secteur 3, qui est un secteur de psychiatrie adulte à l'hôpital Sainte-Anne, qui reçoit les gens des 5e et 6e arrondissements. Donc à partir de là, donc à partir de cette structure, on a créé ce groupe d'entraide mutuelle qui est destiné à ce que des gens qui sont passés par la psychiatrie, en règle générale, mais c'est ouvert aussi à un public plus large, viennent se rencontrer ici, créer des liens et mettre en place des projets finalement. Donc ce qu'on essaye de faire, enfin moi ce que j'essaye de faire, c'est de pas proposer de choses finalement, de pas trop influencer sur ce qui se passe ici. C'est pas forcément évident, hein. Ça fait un an et demi que c'est ouvert maintenant, suite à la proposition d'un patient à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de structure vraiment, qui a proposé qu'on ouvre ça le mercredi de 5 à 7. Donc voilà, on a ça. Cette personne a dû venir deux fois peut-être, et puis après elle n'est plus jamais venue. Et puis depuis ça tourne comme ça. Alors bon, la première chose qu'on a faite, c'est vrai que c'est moi qui l'ai proposé, c'était une expo photo. Et puis donc là on était 9 personnes, moins un clown. Puis un jour, un certain César est arrivé, puis il m'a dit « Ah oui, tiens, je voudrais faire un truc avec le son et la musique et tout ça, les micros, l'ordinateur et tout. » Et puis, bah, super. Et donc, c'est ce à quoi t'as assisté avec ton micro. Et c'est un tout petit truc, hein, parce que bon, on est 3, 4, 5, des fois, ça dépend. Et puis on n'a pas de prétention, c'est juste pour se marrer, quoi, pour voir ce que ça va donner en fait. On fait un peu n'importe quoi, on se lâche, on s'en fout pas mal, et puis ça donne ce que ça donne. Mais en tout cas, disons, il y a vraiment un moment où on se retrouve tous dans un même espace.
Oui, vous comprenez. Les gens, moi, je sais ce qu'il leur faut.
Quand j'étais à Benjamin Ball, moi, je comptais chercher du travail à ma sortie du pavillon. Arwan, l'animateur, m'a proposé de venir ici, au club, au passage, parce qu'il allait mettre en route un atelier pour trouver du travail. C'est une séance qui avait lieu le jeudi. Il m'a dit, viens le mercredi pour une première approche, parce que le mercredi, ils font quelque chose... Le mercredi, c'est un groupe de parole. Donc je suis arrivée le mercredi. Au début, j'ai vu que c'était un groupe de parole, je voulais pas rester. Puis finalement, j'ai discuté avec 2-3 personnes et au cours de la discussion, je me suis dit, bon, je vais rester jusqu'à la fin. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est libre. C'est-à-dire, tu n'as pas des horaires à respecter. Si tu veux venir, enfin, si tu arrives à la bourre, tu arrives à la bourre. Si tu pars plus tôt, tu pars plus tôt. Si tu viens pas, tu viens pas. On va pas te harceler au téléphone parce que tu n'es pas venu. Voilà, c'est ce qui me plaît. Je peux pas rester trop longtemps enfermé chez moi. J'ai besoin de bouger, de... Voilà, c'est ça surtout. C'est pas la tenue en soi, tu vois, ça pourrait être ça ou autre chose, mais ce qu'il faut, c'est pas que je reste toute seule trop longtemps chez moi.
Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait ?
On a fait de la musique. De la musique, comment dire, expérimentale, on va dire. C'était sympa. Ça défoule.
Et t'as des choses à dire sur la psychiatrie ?
Ouais, les psychiatres, c'est des connards. Ils sont des charlatans aussi, incompétents. Ils savent tout sur tout alors qu'ils connaissent rien à rien. Comme dire un autre patient, ils ont l'école de l'école, mais ils ont pas l'école de la vie. Je les aime pas. Les infirmières, c'est des sorcières. Non, je sais pas, j'aime pas du tout ce milieu-là. Ça me... J'aime pas. J'y suis parce que j'ai pas le choix.
Voilà, vous êtes toujours sur FPP, dans les oreilles loin du front. Et donc, on fait un dossier sur la psychiatrie et plus particulièrement sur toutes les initiatives qui visent à décloisonner un peu la psychiatrie. Et donc, on s'est intéressé au travail qu'a fait Stéphane Gatti autour du psychiatre des aliénistes, Lucien Bonafé. On va entendre d'abord la fille de Lucien Bonafé qui parle de son père.
Plus je reprends l'œuvre de mon père, plus je pense que le surréalisme, c'était un psychiatre surréaliste, dans le fond. Parce que la poésie, c'est un enjeu politique. C'est un enjeu politique. Comment faire passer une nouvelle façon d'aborder la souffrance psychique, la psychopathologie, hein? Je crois que c'est un mot qui est décrié maintenant, on nous dit qu'on est psy. Mais c'est quand même un objet, on l'a dit, très dérivé, issu de la médecine, mais d'une science qui est celle de Freud. Et parce que mon père se référait toujours à Freud. Et comment la faire passer d'une façon plus politique et dans les structures dont hérite la psychiatrie. Je crois que le gros problème, il est là. Et il est, je sais pas pourquoi ce mot vient, il est invincible. Je pense que c'est non réversible. De toute façon, ça va passer. Alors, est-ce que spécialement l'œuvre de mon père ou non, mais son projet autour de la guerre d'Espagne, autour du surréalisme, enfin tout ce qu'on a vu et que les témoins ont dit, c'était quand même ça, une autre façon de parler aux malades mentaux, tenant compte du rêve et de l'inconscient, par la voix de la poésie, pour lui. L'article que j'ai fait dans l'hommage paru à l'Harmattan, je crois vraiment que là, après sa mort, il y a des choses qui sont cristallisées et concrétisées, et je crois que c'est ça, Lucien Bonafé, c'est comment ce levier politique qu'est la poésie, mais entendu au sens de surréalisme, pas la littérature, comme il disait, rature, Anatole France, je n'aimais pas Anatole France. Bon. Une poésie dans l'action. La poésie doit avoir pour but la vérité pratique. Quand il dit ça, il pense aussi à la vie des malades, à la vie des services et aux entretiens quotidiens, parce que c'est vrai que c'était un grand clinicien, reconnu comme tel.
Au départ du projet Bonafé, il y a d'abord la rencontre avec Lucien Bonafé. Et ce n'est pas une rencontre qui se fait autour de la psychiatrie, mais une rencontre qui se fait autour de la poésie. On est chargé par la ville de Saint-Denis de fêter le centenaire de Paul Éluard. Et donc, on essaye de rencontrer tous ceux qui peuvent avoir une parole forte autour du poète. Donc, on rencontre toute une série de gens comme ça qui font vivre la poésie d'Éluard. Et puis, on nous dit, quelqu'un, une psychiatre qu'on connaît, qui s'appelle Fatima Doucan, il dit, mais il y a Lucien Bonafé, il l'a accueilli pendant la guerre à Saint-Alban, dans l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, dont il est directeur. Bon, donc... On prend rendez-vous avec Bonafé, il est là. Et là, on rencontre quelqu'un d'extraordinaire, dont mon ami Michel Séonnet, qui est écrivain, dit « Si les surréalistes avaient été surréalistes jusqu'au bout, ils seraient devenus Lucien Bonafé. » Donc, d'une certaine façon, Lucien Bonafé est le plus surréaliste des surréalistes.
Lucien Bonafé.
Nous, les... les résistants à la prohibition du discours de la folie, nous ne savons pas par hasard que nous sommes aussi des résistants à la prohibition des cultures des cultures des exclus du dehors, c'est ça. Et sur le plan géographique, sur le plan de la découverte du monde, quoi, c'est pas par hasard que l'amour des cultures étrangères, des cultures dominées, est de la même trempe que l'amour de la folie. Et que les résistances et l'invention soient exactement de même trempe, qu'il s'agisse de l'un, qu'il s'agisse de l'autre. Voilà. Je suis allé voir, il y a quelques temps, il n'y a pas quelques années comme ça, à Beaubourg, exposition breton. Hein? C'était plein de l'éloge des Bretons comme découvreurs d'art, disons, exotique. Tout plein. J'ai cherché partout, dans les vitrines, dans les documents exposés, dans quelle mesure montrer que cette découverte, hein, cette découverte d'un art, n'est-ce pas, qui est un art de contraste écrasant par rapport à l'art saint-sulpicien, si l'on peut dire, hein, comme ça, comment la découverte de cet art était un acte de rébellion, était un acte de protestation contre les mentalités dominatrices des peuples barbares, enfin, hein. Je n'ai rien trouvé. Rien ne rendait ça visible. Et moi, j'ai trouvé que vivre dans un monde où quelque chose d'aussi profond, hein, que l'amour des cultures, n'est-ce pas, étrangères, des cultures qui tranchent avec la nôtre, qui sont foncièrement différentes des nôtres, comme ça, soit si peu montré que possible, c'est effacé comme ça. Et ça en dit long sur la mentalité des gens, hein, comme ça. Alors, toutes sortes de glissements, de dérapages ou d'enlisements d'un niveau, appelons-le esthétique, au sens qui a été très en valeur dans le langage surréaliste, hein, au sens de l'esthétique, suivez mon regard. Hein. Or, c'est ça. L'exposition breton à Beaubourg, c'est esthétique. Donc, et puis voilà. Hein. Alors, ça, c'est vraiment très, très préoccupant. Pour les gens comme moi. Quand je parle de la faiblesse des résistances à ce que nous pouvons personnifier, hein, comme résistance à l'inhumain, et à l'inhumain tout versant, tout azimut, hein, comme ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond, hein, dans leur truc. Hein. Ça va pas bien. Hein.
Et donc on rencontre quelqu'un qui part. De l'art du vagabondage, qui parle de l'écoute et de l'écho, qui parle de la centralité du surréalisme et de la poésie dans la question psychiatrique, qui parle de l'amour de la culture des autres, qui parle qui est indigné par le traitement qui est fait à l'exposition Breton sur les statuettes d'art africain. Que l'exposition ne soit accompagnée d'aucun commentaire sur la condamnation des surréalistes sur l'exposition coloniale. Donc on a quelqu'un comme ça qui parle de psychiatrie, mais profondément au cœur de sa démarche, on voit un psychiatre dont le centre de réflexion, l'appui, la caution théorique, c'est la poésie. Donc c'est vrai que on est sorti de là tout à fait ébloui. C'est une cassette donc qu'on a tournée avec Lucien Bonafé et que j'ai gardée avec moi, que j'ai montée. Quand on me demandait ce que je faisais comme travail dans les villes, comme travail culturel, et moi je dis, voilà ce que je fais. Je fais ce que raconte ce monsieur qui s'appelle Lucien Bonafé. Je travaille l'écoute et l'écho. Voilà, donc c'est le début avec Bonafé, c'est un compagnonnage donc qui va se faire que d'année en année. Effectivement, on s'aperçoit que Bonafé est quelqu'un qui a rayonné à peu près dans tous les milieux de l'éducation spécialisée, pas simplement de la psychiatrie, de la formation. Et donc partout où on va, quand on met cette cassette, il y a des gens qui arrivent, qui écoutent, qui regardent et qui reviennent et qui nous font « celui-là, il est formidable ». Et effectivement, c'est un discours extrêmement tonique. C'est-à-dire que ce qu'on dit sous les gens qu'on a rencontrés, c'est Lucien Bonafé un peu comme les disciples du Baal Shem Tov. C'est-à-dire, il est interdit d'être triste, d'être morose. Il faut être volontaire et optimiste de façon forcenée.
Un des aspects de ce que je me sens personnifié dans et par mon imprégnation par la leçon surréaliste, hein, c'est la défense des droits de l'homme et du citoyen, hein, pour la défense du droit à vagabondage de l'esprit. La proscription de l'esprit vagabond, qui fonctionne comme ça dans ce monde, n'est-ce pas, d'une... comme ça, vraiment, avec une sorte de routine, comme ça, difficilement tolérable, hein, ça va pas la tête. Hein. Non, ça va pas la tête. Hein. Et ça, c'est une sorte de raffinement de l'inhumain. L'inhumain, tout ça, comme ça, il tombe, petit machin comme ça. Et ça, la prohibition de l'esprit vagabond, c'est vraiment un moyen d'empêcher les hommes, l'esprit humain, de vagabonder à sa guise.
Ce qui est très compliqué pour aborder le travail de Lucien Bonafé, c'est que quand, d'ailleurs on entend bien dans l'entretien qu'on fait, c'est un feu d'artifice. Ça veut dire, il parle de la psychiatrie, mais il parle en même temps de la poésie, il parle de la politique, il revient de l'un à l'autre. Et donc, essayer de faire rentrer Lucien Bonafé dans un récit linéaire de son trajet, c'est le trahir. Parce qu'effectivement, si on parle de Lucien Bonafé uniquement en tant que syndicaliste, on le trahit. Si en tant que gestionnaire d'hôpital, on le trahit. En tant que poète, on le trahit. Donc, si on le tient dans une sorte un suivi un peu univoque de sa démarche, on est condamné à le trahir.
Et quand on a fermé le pavillon 11, on se retrouvait avec une friche dans laquelle on a fait venir tous les artistes de la région, les fanfares, les majorettes, ils ont transformé le pavillon 11, c'était en mai 84, en une œuvre d'art et un débat permanent sur la psychiatrie et l'enfermement des fous, comme on disait à l'époque, en 1984. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans le pavillon, interdit. Et chacun était en cellule, il y a eu des exactions épouvantables contre les patients à l'époque. Les langues se sont déliées pendant cette semaine où Lucien Bonafé est venu. On avait mis en place avec une troupe de théâtre le procès de la folie. Et donc on avait tous les témoins, et Lucien est venu témoigner, comme tout le monde, et tous les témoins sont venus témoigner du procès de la folie, certains disant qu'elle était destructrice, d'autres disant qu'il fallait pas la considérer comme ça. Et on a eu tout de même pas mal, pour une fois, pas mal de témoignages de patients qui étaient passés et qui étaient restés dans le pavillon.
Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence. Nous étions toute une bande qui marchions en chantant.
Marjolaine, cabibou, la belle digue digue, la belle digue don.
Marjolaine, cabibou, la belle digue digue, la belle digue don.
Les autres allaient très vite. Moi, je ne pouvais pas arriver à les suivre, malgré mes efforts.
Attendez-moi, attendez-moi.
Marjolaine, cabibou, la belle.
Soudain. Devant nous, il y avait...
Mais qu'est-ce que c'est que ces saletés, des hippopotames?
Oui, des hippopotames tout là. Oh, ça leur s'est inouï.
Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes.
Et tout à coup...
J'étais en train de marcher sur Max Frémier qui était allongé par terre et qui était long de 30 mètres et couvert de taches comme un corps de girafe. Les deux hippopotames se précipitèrent sur nous et au moment où ils allaient nous écraser, je vis derrière mon arbre un défilé surprenant. Toutes les bêtes sauvages du monde. Une vraie ménagerie. Mais à ce moment-là, une tempête s'éleva. Le vent, la pluie, l'orage faisaient fuir les bêtes sauvages. Était devenue une tempête de musique. La forêt était devenue une salle de concert. On applaudissait et pourtant il n'y avait personne dans la salle. Les applaudissements devenaient assourdissants. On aurait dit une fusillade.
Entrez là, vous serez à l'abri. Entrez là. Mais entrez donc.
C'était l'ouvreuse de la salle de concert qui me poussait dans une loge capitonnée. La loge était un abri bétonné où se retrouvaient tous les spectateurs tassés comme des sardines. Au-dessus de nous, la salle s'effondrait. La fusillade continuait. Dans l'abri, tout le monde se plaignait d'étouffer.
Au secours !
De l'air !
À moi !
Autour ! Autour !
Moi-même, j'allais étouffer quand je me suis réveillé haletant, mon oreiller par-dessus ma tête.
Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front et on continue l'entretien avec Stéphane Gatti depuis La Parole Errante sur le psychiatre Lucien Bonafé. Stéphane Gatti va nous parler maintenant de la manière dont est née la psychiatrie de secteur, de ce que ça représente. Et on l'a fait dialoguer avec Franck Chaumont. On a pris des extraits de justement d'entretien avec Franck Chaumont qui sont sur le site lucien-bonafé.org. Comment en fait se noue en fait à Saint-Alban le début de ce qui va devenir une réflexion justement sur la psychiatrie de secteur, sur le désaliénisme, et comment aussi justement à travers la poésie, à travers le surréalisme aussi, il y a une remise en question de l'héritage de la psychiatrie d'avant quoi. Bonafé, il parle, je crois, à un moment de la dimension suraliénante de l'héritage.
Alors, c'est vrai que le nœud permanent de cette histoire, c'est le poème de Paul Éluard sur le cimetière des fous à Saint-Alban. Et autour d'une phrase qui est extrêmement violente, de Paul Éluard lorsqu'il dit « Ma souffrance est souillée ». C'est-à-dire que c'est profondément l'asile, c'est l'endroit où la souffrance des patients est souillée, de la façon dont elle est traitée. Et c'est donc... On peut penser que c'est ce que pense aussi Bonafé quand Éluard vient à Saint-Alban. Alors, bien sûr, il y a eu le fait que Bonafé revendique le surréalisme, il revendique aussi la dénonciation qu'ont fait les surréalistes de la psychiatrie, des asiles, de la façon dont sont traités les fous, mais aussi centralement, ce que proposent les surréalistes, c'est une nouvelle écoute. C'est-à-dire la parole des fous a une qualité extraordinaire, une qualité poétique. Et donc qui lui donne un statut tel que, pour Bonafé, c'est le début du retournement. Alors le retournement, c'est ce retournement-là qui va se passer pendant la guerre. Et tout de suite, immédiatement après-guerre.
Le désaliénisme, c'est un mot maintenant qui fait un peu bannière, je dirais, dans notre période de résistance. Il y a des gens qui... C'est un mot qui est devenu plus célèbre que même du temps où il était là, lui, Bonafé. C'est un mot qui veut dire quelque chose pour beaucoup de gens. En même temps, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours employé dans le sens qui me semble être le sien. Parce que c'est indissociable... De ce truc extravagant que je te disais, qui est que l'objet de la psychiatrie, pour lui, c'est la psychiatrie. C'est-à-dire, c'est pas le malade. C'est le regard sur l'autre en tant qu'on est délégué à une certaine place, et ce regard, s'il change, change l'autre, etc. Donc, l'objet même, c'est la folie. Et la folie en tant qu'elle est culturelle, indissociablement. Mais bon. Et donc, désaliéniste, ça veut dire quelque chose de très précis. Je crois que c'est une position critique. Au sens de Deleuze, quoi. C'est assez critique au sens où ça ne se définit pas positif. Ça se définit négativement. Donc, c'est toujours à faire et à défaire. Le désaliénisme de demain, ça sera en fonction de l'aliénisme de demain. L'aliénisme d'aujourd'hui, ce n'était pas le désaliénisme d'hier. Quand on dit, mais aujourd'hui, il faut se battre sur d'autres choses, mais évidemment. Mais il faut sans arrêt qu'on défasse ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait ? C'est un aliénisme toujours renaissant. Et l'aliénisme, c'est quoi ? C'est une relation de pouvoir sur un objet de connaissance. L'aliéniste, c'est celui qui fabrique des aliénés, qui dit ça, cela, là, celui-là, je sais, je m'en occupe. Donc le désaliéniste, c'est celui qui va dire, qu'y a-t-il pour votre service ? Mais c'est-à-dire, c'est des formules très étonnantes d'ailleurs. Mais enfin bref, je finis sur le désaliénisme. C'est vraiment uniquement faire l'envers de ce que l'aliénisme, comme position institutionnelle, une institution se fabrique un objet, et comme c'est des hommes, l'objet, ça va avec un pouvoir. Tout ce discours forcément va... Donc il faut sans arrêt le défaire. Pourquoi ? Parce que les gens aussi, ils disaient pas tout à fait ça. Il y a effectivement une histoire distincte. Hein. Effectivement une histoire distincte. Et le rapport de Houry à Lacan a quand même beaucoup ancré un certain nombre de psychanalystes, pour autant qu'ils étaient intéressés à la psychiatrie, du côté de... d'une écoute du malade comme ce, bon voilà ce que peut dire Houry, mais fondamentalement c'est pas politique ou la politique en tout cas est hors champ. Houry a beau dire ce qu'il veut, elle est hors champ.
Mais pour revenir à Saint-Alban,
Stéphane Gatti,
juste avant Tosquès, il y a Bonafé qui est nommé directeur. Il ne devait pas aller là au départ, il était nommé dans une autre ville. Et puis, comme le grand-père de Bonafé avait été à Saint-Alban, il a négocié pour pouvoir y aller lui. Et donc, le grand-père de Bonafé, Maxime Dubuisson, est lui un aliéniste, un classique, mais un aliéniste qui a beaucoup marqué Lucien Bonafé. Et il a gardé la mémoire de son grand-père, parce qu'il y avait tout le temps des discussions sur les lois, et ça a continué, les lois qu'on doit faire sur les fous, sur la folie, sur comment on doit les enfermer, pas les enfermer. Et donc Maxime Dubuisson disait, devant Lucien Bonafé, on disait, on devrait arrêter de faire des lois sur les fous, on devrait commencer à faire des lois pour les fous. Maxime Dubuisson avait déjà commencé à collectionner des œuvres de fous, etc. Donc l'héritage, la sensibilité, disons, à la psychiatrie, elle s'est faite à travers ce monsieur. Et donc, disons, il arrivait à Saint-Alban, lui, Bonafé, sur les traces de son grand-père, mais... avec d'autres choses en main, c'est qu'il avait le surréalisme, parce qu'il avait rencontré les surréalistes à Toulouse, il les avait suivis, il avait essayé de rencontrer le maximum de gens, et donc les contacts qu'il avait avec eux a fait que Éluard puis Tzara sont venus se cacher là, et puis il a rencontré dans le maquis aussi Canguilhem, et Canguilhem donc qui est le père spirituel de Michel Foucault. Donc, celui qui va réfléchir sur la place du sujet par rapport à la maladie. Et donc, vont se croiser pendant sa présence, son temps à lui de présence, tous ces gens-là. Et effectivement, ça va être le terreau sur lequel il va toujours fonctionner. Alors, je me suis longtemps demandé, mais pourquoi il répète tout le temps Saint-Alban ? Parce qu'il y a... Il y a effectivement quelque chose que les psychiatres découvrent pendant cette période-là. C'est que au contact de la résistance, ils vont s'intégrer dans le réseau de résistance. Et il y en a même certains, dans certains maquis, des gens qui sont internés, qui vont devenir responsables de petites cellules de maquis. Et le maquis soigne, le maquis désaliène. Le maquis apporte beaucoup plus aux gens qui sont internés à Saint-Alban que est capable d'apporter la structure elle-même. Et donc, c'est la résistance en tant que moment exceptionnel qui désaliène. Et donc, c'est cette question-là centralement que toute sa vie durant, Bonnafé va répéter. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire avec la résistance. En même temps qu'il découvre ça, cette chose importantissime, de l'autre côté, ils sont témoins du pire. Ça veut dire ce que Bonnafé, à la fin de sa vie, va appeler les oubliettes, c'est-à-dire les 40 000 morts dans les hôpitaux psychiatriques. C'est-à-dire que c'est pas, effectivement, on conteste le terme de génocide pour ces 40 000 morts en plus. Hein, en plus des morts normaux statistiques qu'il y avait chaque année dans les hôpitaux, on conteste le terme de génocide parce qu'on dit il n'y a pas de décret, il n'y a pas l'équivalent du décret T4 fait par les nazis pour l'extermination des malades mentaux et des handicapés. Donc comme il n'y a pas de décret, il n'y a pas de génocide. Et donc à la place, il y a un silence, parce qu'il y a quand même 40 000 morts. 40 000 morts qui viennent du fait que la ration alimentaire prévue pour chaque patient n'étant pas suffisante, il meurt de faim. Et donc, il y a une visite de Lucien Bonnafé à l'ancien directeur de Saint-Alban, Balvet, qui a été nommé à Lyon, où il raconte comment, voilà, il marche au milieu des cadavres. Il traverse les dortoirs, on ramasse les morts de la nuit, on les charge, etc. Il meurt... de faim, avec la dysenterie et tous les maux qui accompagnent la malnutrition. Et donc franchement, jusqu'à dire en disant, bon, est-ce une chance? Est-ce un handicap? On est une profession qui avons connu dans nos rangs le fait qu'il y a eu des gens qui ont été les capots. Et qui ont dû gérer ça et qui ont accepté ce statut-là. Donc c'est deux choses, c'est-à-dire l'infini réservoir de maltraitance que peut représenter l'univers de la psychiatrie d'un côté, et l'infinie capacité de résistance qu'offre le mouvement social. C'est Saint-Alban, c'est ça. C'est la juxtaposition de ces deux éléments-là.
Moi, la chose qui m'a vraiment marqué définitivement de son enseignement, c'est ça, c'est l'indissociabilité de la connaissance et du pouvoir sur l'objet de connaissance. C'est-à-dire que vraiment, si tu veux, moi, cette histoire, ce récit, en tout cas, c'est vraiment, je ne l'ai pas vécu, mais pour moi, c'est devenu complètement évident, et je sais que ce n'est pas évident, y compris dans ma génération, que ce n'était pas évident pour beaucoup, qu'on ne pouvait pas dissocier le savoir sur un objet du pouvoir sur cet objet, en tout cas dans le champ humain, quoi. Et nous avions la grande chance, en tant que psychiatre, d'appartenir à un corps qui avait été... le corps des capots de la psychiatrie, quoi. Puisqu'il y a quand même un grand nombre de collègues qui ont organisé, non pas en tant que cause, mais comme Eichmann, en tant que répondant à un impératif catégorique, organisé la mort des malades mentaux dans les asiles dont ils avaient la responsabilité. Il y en a qui ont fait autrement, et il y en a qui ont fait comme ça. Et ceux qui ont fait comme ça, il est impossible de dissocier le savoir qu'ils ont produit de la position de pouvoir qu'ils avaient vis-à-vis des malades. Et ça, pour moi, c'est resté un truc, je ne saurais pas comment le dire, justement, assez fortement, parce que... et moi, je me suis, à partir de son enseignement, je me suis senti lié par ça, en tant que psychiatre. Je me suis dit, d'être psychiatre, ça veut dire d'être quelqu'un dont, historiquement, je peux toujours dire, je ne suis pas psychiatre, comme certains qui disent, moi, je suis analyste, je ne suis pas psychiatre. Hein. Mais historiquement, c'était dans cette place extravagante où la délégation sociale nous donne un pouvoir au nom du savoir dont on n'a pas à faire la preuve, qui sera postérieur. le savoir se déduit. C'est pour ça que l'enseignement de Foucault est venu pile poil dans ce... Même si Bonafé avait évoqué, avait construit même ça, cette conception-là avant Foucault. Mais pour moi, c'était les mêmes années, donc c'est venu en plein, c'est un peu de part. Alors, ça, et d'autre part, en tant que psychiatre, je suis comptable de tout ce qui se passe partout au nom de la psychiatrie.
Voilà, vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel. Vous venez d'entendre Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu. Antonin Artaud dont on va parler bientôt, dont Stéphane Gatti, donc on a rencontré, puis Lucien Bonafé vont parler. D'ailleurs, je réalise que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le très beau poème que vous avez entendu, c'était un texte de Robert Desnos qui s'appelle « Description d'un rêve ». Mais on revient tout de suite à la psychiatrie de secteur avec Stéphane Gatti.
Après la Seconde Guerre mondiale, qui représente justement cette catastrophe considérable que représente la mort de 40 000 personnes, plus l'expérience de l'enfermement qu'ont vécu des psychiatres, enfin, soit de l'enfermement d'ailleurs en tant que résistant, soit ce que vous disiez, quoi, ce parallélisme qu'ils établissent après la connaissance qu'il y a des camps d'enfermement nazis, etc. Il y a tout ce mouvement, en fait, tout un mouvement qui émerge comme ça à travers Bonafé, à travers toutes ces personnes, qui disent que les fous ont des droits. Et que voilà qu'il faut les traiter comme tels. Comment est-ce que ça prend forme concrètement? Comment est-ce qu'on arrête de fonctionner comme un asile? Je crois que le terme est abandonné uniquement en 37 ou 38, quoi. C'est très très récent. Comment est-ce qu'on termine l'asile et comment est-ce qu'on essaye d'inventer autre chose?
C'est très long parce que la nosologie classique en riait et ça va durer jusqu'en 68. Comme dit Foucault dans La naissance de la clinique, ce sont une profession dont la connaissance s'établit à partir de la présence du lit et de l'observation de la personne allongée sur le lit. Bonafé, lui, à travers ce qu'il a compris, il pense qu'il faut tourner le regard. Donc, la première chose à laquelle il s'attaque, c'est son livre s'appelle, il y a eu trois textes successifs, s'appelle « Le personnage du psychiatre ». C'est-à-dire, il faut interroger le psychiatre. C'est-à-dire, si on arrive à changer le psychiatre, à changer l'observation, parce qu'un des grands textes qui a influencé tout le monde à l'époque, c'est qu'il avait fait donc pour les CMEA, qui s'occupe de la formation et de l'éducation des infirmiers et des éducateurs. C'est les grands mouvements d'éducation populaire liés, je pense, au Parti communiste français. Parce qu'effectivement, centralement, tous ces psychiatres, Daumaison, Bonafé, Le Guillan, pensent qu'il faut tout mettre dans la formation des infirmiers. Parce que jusqu'alors, c'est un peu... Enfin, c'est la réalité. Les infirmiers n'étaient pas des infirmiers, c'est des gardiens. Et la première chose qu'on leur demandait, c'était de savoir ceinturer un patient avant toute autre connaissance. Donc, en même temps, ils s'aperçoivent que pour peu que on s'intéresse à eux et qu'on les fasse collaborer activement, ça devient un potentiel d'observation, de connaissance irremplaçable, parce que c'est réellement eux qui sont en contact en permanence avec le patient. Donc la structure, ce qui va se mettre en place, ça va se faire à travers les CMEA. Et donc le premier texte de Bonafé, tout à fait important après 1945, c'est celui sur l'observation des patients. Et donc des techniques d'observation, des conseils qu'il propose aux infirmiers sur comment capitaliser un peu les observations qu'ils font et à quoi ça peut servir dans les soins. Donc ça, c'est vraiment le début. Il s'adresse aux infirmiers et il s'adresse aux psychiatres. Et c'est par là qu'on va commencer à bouger les choses.
Arthaud, bon, on jetait ses papiers, mais oui, on jetait les papiers des fous. Arthaud, il était traité dans un système qui était le système barbare, asilaire, le système d'inhumanité dans lequel cette société enfermait ses fous.
Lucien Bonafé.
Comme ça, il a été traité comme les autres, avec une nuance tout de même. C'est que comme c'était un monsieur qui avait un peu une cote d'écrivain, il écrivait des trucs comme ça, disons qu'il avait plutôt un peu plus de respect que les autres. Un peu plus. Mais ça n'empêche pas qui veut dire du mal de la psychiatrie à propos d'Arthaud de dire du mal des infirmiers. Alors que les infirmiers représentent d'une façon exemplaire l'image même du gâchis. L'image même de potentiel de relations humaines qui sont ce qu'ils sont chez vous, chez moi, chez tout le monde, enfin, en tant que potentiel qui sont, et qui sont profondément gâchés, par le conditionnement, par la vie d'un système. La routine asilaire, on paie les gens pour faire comme ci, comme ça, ils le font. Et alors, ils sont très rares ceux qui mettent un petit peu d'effort, d'effort d'imagination critique pour dire que le truc qu'on leur fait faire, c'est de la connerie, C'est bête et méchant. Bon. Alors, la plupart font marcher la machine. Ils font marcher... Et alors, on va faire le procès des gens qui font marcher la machine. Pourquoi? Parce que faire le procès de la machine, du système qui fonctionne là, alors ça, c'est un peu dérangeant. Alors, la fuite devant l'idée de faire le procès du système, toujours sur des dégénérescences de personnification. Au lieu que... Je pense, comme ça, je crois bien qu'il y a, disons, une leçon puisée dans le surréalisme. La vérité, c'est que toutes les opinions ne sont pas respectables. Il n'y a pas d'apôtre de l'inhumain qui ne plaide pour dire que toutes les opinions sont respectables. C'est pas vrai. Toutes les opinions ne sont pas respectables. Les opinions qui fondent, n'est-ce pas, la logique de haine, la persécution d'autrui, son exclusion, son extermination, etc., ces opinions-là ne sont pas respectables. Alors, le problème du sujet humain, c'est d'affronter, tout à longueur d'existence, le principe d'une tolérance infinie à l'égard de toute personne, tout en maintenant de la rigueur dans l'intolérance vis-à-vis de ceux qu'elles peuvent personnifier. Toutes ces personnes qui personnifient des visions immensément intolérantes d'autrui sont porteurs d'opinions intolérables. Bon, mais en tant que personne, le principe de tolérance à l'égard des personnes, pour y faire exception, il faut y mettre un sacré paquet. Il faut s'appeler Le Pen, etc., ou bien, dans mes aventures récentes, une bourrique scientiste comme Alexis Carrel, l'apologiste des chambres à gaz, de l'aristocratie biologique héréditaire, etc., le manipulateur d'opinion comme ça, lui, n'est pas respectable.
Il y a une reconnaissance très très tardive des propositions que font les psychiatres de secteur. Enfin, la psychiatrie de secteur en tant que telle, je crois que c'est vers 68 et pas avant, en fait, qu'elle est reconnue par le gouvernement.
Stéphane Gatti.
Je crois que la... Là, c'est qui ? C'est Guy Bayon qui dit en 1981, les secteurs n'étaient pas encore tous découpés. Ouais. En 1981. Ouais. Donc, c'est extrêmement lent parce que le c'est pour ça qu'on décrit le paysage de la psychiatrie, c'est difficile de l'extérieur. Moi, j'ai toujours pensé que les médecins, c'est les chefs. En fait, non. Dans les hôpitaux psychiatriques, les chefs, c'est l'administration. Donc, qui est un véritable corps d'État, directeur d'hôpitaux psychiatriques, qui sont un vrai pouvoir d'application ou de refus d'application, enfin, ou de résistance à des formulations de réformes. Donc, la question qui est posée et qui se pose depuis le début, c'est pour tous ces gens, ça va être d'essayer de faire que l'hôpital ne soit plus le centre du soin psychiatrique. Et que donc, ça soit la ville. Et donc, tous ces réformateurs, ils ont un projet, donc... D'ailleurs, la phrase exacte, c'est le secteur, pour que le secteur devienne une personne morale et où l'hôpital en droit disparaît. Ça veut dire que c'est qu'il y a un transfert de toutes les compétences administratives, médicales, ou dans le secteur, ça soit dans la ville et non plus dans l'hôpital. Et donc, juste Guy Bayon dit, ce qu'on avait réussi à faire à ce moment-là, c'est... On avait réussi à faire un lien entre notre présence à nous, médecins, et lui, un lien avec lui, sa culture, etc. C'est-à-dire que ces gens qui vont arriver dans cette époque-là, donc qui sont les... Guy Bayon, c'est plutôt les enfants de Bonafé, c'est que ils ont identifié qu'ils étaient là pour les accompagner, pour les aider à vivre, qui était quand même... Accompagner le fou, c'est quand même un des thèmes centraux de l'antipsychiatrie. Beaucoup plus que pour les décrypter et leur dire « Vous êtes ça, vous avez ça, et vous allez aller là. » Puisque un des grands trucs de cette génération de psychiatres, c'était de s'amuser à prendre les livres sur la psychiatrie et essayer de voir si un seul des patients qu'ils rencontraient correspondait aux descriptions qui étaient faites. Ça correspondait jamais. Donc effectivement, les médecins, ils se demandaient, mais alors avec quoi on travaille ? Donc va naître une clinique, mais une clinique du lien. D'abord, donc le lien simple, le médecin au patient, et puis après, qui va se sophistiquer avec la mise en place du secteur, qui est le patient, le médecin et l'entourage. Donc, c'est en train de se construire maintenant, là où ça arrive à se mettre en place. Donc, comment, à partir de la construction de différents liens, on arrive à une politique d'accompagnement qui permette à l'usager de rester dans la ville.
Pérac, d'émancipation de la folie,
franchement,
on ne peut pas le faire, comment le faire, si l'on ne reconnaît pas d'abord. Alors, d'abord quoi ? Dans la folie, non quelque effet de quelque essentiel des raisons, c'est-à-dire, si on ne reconnaît pas la folie... comme déficit, comme amoindrissement, comme écart par rapport à la norme. Tu remarqueras que toutes les productions soi-disant scientifiques aujourd'hui, puisqu'on en parle à l'instant, des neuroscientifiques sur les maladies mentales, parlent en termes de déficit. Que ça soit déficit de gènes, que ça soit déficit enzymatique, que ça soit des circuits qui ne marchent pas, c'est toujours quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le modèle de pensée des grands scientifiques, soi-disant, s'accordent avec cette idée que la folie serait quelque chose qui manque, un déficit. Ça, il dit, bon, d'abord, il faut se défaire de ça. Hein. Si on ne reconnaît pas d'abord dans la folie, non pas quelque avatar, quelque essentiel des raisons, donc quelque chose qui minore la raison, mais quoi ? Quelque avatar malheureux. Alors là aussi, c'est très freudien. Parce que, avatar malheureux, quoi ? Dans la juste protestation d'esprit. La folie, c'est une juste protestation d'esprit. Ça proteste, ça essaie de réagir à quoi ? À une injuste contrainte. Bon. Mais c'est un avatar malheureux. Freud, il appelle ça fausse solution. Il dit, enfin pour la névrose en tout cas, il dit c'est des fausses solutions, c'est, il s'empêtre, il essaie de trouver une solution, mais c'est une solution qui est vachement coûteuse, quoi. Hein, entre la culture et puis le narcissisme, il choisit le narcissisme. C'est dommage pour tout le monde, pour lui le premier. C'est-à-dire la maladie mentale pour Freud, c'est quand même quelqu'un qui se prend les pieds dans ses contradictions, dans ses difficultés. Il n'arrive pas à trouver une issue. Mais il n'empêche que c'est une juste protestation de l'esprit. Et Freud, c'est là que je tire un peu les choses, c'est que Freud, par exemple, le délire, il le prend comme une tentative de guérison. Il dit la folie de Schreber, c'est une production qui a, dit-il, autant de dignité que la mienne, qui suis en train d'écrire sur le président Schreber. Et l'avenir dira, dit-il, s'il y a plus de folie dans ma construction théorique que de raison dans le délire de Schreber. Donc pour Freud, c'est la manière dont Schreber fait une création subjective, c'est-à-dire c'est sa création singulière qui est irremplaçable, c'est irremplaçable parce que c'est singulier. Mais c'est un avatar malheureux, parce que malheureusement, ça l'aide à vivre d'une certaine manière, mais c'est quand même... Donc, si tu veux, ce petit commentaire pour dire que, mais très profondément, je le pense, que c'est en quoi je m'accordais en tant qu'analyste, ou en tant que j'imagine ce qu'est un analyste, par rapport à la psychose en particulier, et puis la position de Bonafé.
Voilà, c'était Robert Filliou du groupe Fluxus qui interprétait en imitant les oiseaux. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, dans les oreilles loin du front, et on est toujours avec Stéphane Gatti qui va nous expliquer comment Bonafé avait l'intention de changer la société à travers cette réflexion sur la psychiatrie. Et on a inséré également des extraits de Jean-Luc Rolante, qui est psychiatre à Lille.
À travers ça, il y a une réflexion profonde sur l'organisation sociale, sur la place du fou dans la société. Une des phrases de Bonafé, c'était je la sais plus de tête, mais qu'une société peut s'évaluer à la place qu'elle accorde à ses fous. C'est-à-dire, c'est une révolution dans la manière de considérer la maladie mentale et ses liens à la société, quoi, ce qu'elle dit sur la société dans laquelle on est.
Là, c'est un truc très, en même temps très violent, parce que ce qui est toujours extrêmement compliqué en psychiatrie, c'est que on ne sait pas ce qui touche à leur statut, privilèges médicaux, parce que ça a été longtemps leur problématique, à ce qui effectivement, politiquement, pourrait correspondre à une disparition de la psychiatrie comme spécialité médicale. Donc la transformation complète du paysage psychiatrique en France, c'est vrai d'abord qu'il y a eu des vrais changements, qu'une partie du secteur s'est mise en place. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on s'aperçoit qu'il manque des moyens, mais... qu'il y a, on l'a vu à Corbeil, on l'a vu à Morsang-sur-Orge, on l'a vu à Évry, on l'a vu à Bondy. Il y a plein d'endroits où il y a des expériences tout à fait extraordinaires qui sont mises en place. On l'a vu à Châtelet avec les expériences qui sont mises en place, donc chez Piel lui-même. C'est de créer des nouveaux lieux d'accueil qui ne sont pas, entre guillemets, psychiatriques, mais qui accueillent des gens qui viennent de l'univers psychiatrique. Alors, c'est un mouvement qui s'était largement développé dans les années 70. Il y avait des gens comme Deligny, Fernand Deligny, qui a fait rêver toute notre génération, puisqu'il a, Il s'était d'abord occupé des enfants en souffrance après-guerre, puis après il s'est occupé d'enfants autistes, et à un moment donné il s'est dit voilà, ces enfants n'ont pas de raison de vivre enfermés dans 10 mètres carrés toute leur vie, ils peuvent vivre ailleurs. Ces enfants-là pouvaient vivre ailleurs, ils ont, et donc il y a des films très beaux où on voit ces enfants qui sont effectivement autistes, mais qui accompagnent les éducateurs à faire tous les travaux de la vie quotidienne. Donc on les voit aider à faire le pain et tout, et donc l'éducateur n'est plus ou entre guillemets l'infirmier n'est plus ce personnage un peu stérile qui est uniquement là pour surveiller, occuper ou animer. Non, il fait du pain, donc il réintègre tout ce monde là dans une sorte de fonctionnement d'économie. C'est un peu utopique.
Qu'est-ce qu'il avait raison, hein, sur les isos là? Qu'est-ce qu'il avait raison? Enfin, il me l'a dit, ça, la pathologie des isolats. Mais on avait vu ça à l'asile. Hein. L'asile avait classé, il y avait le pavillon des épileptiques, pavillon des furieux, pavillon des entrants, pavillon des guérissables, pavillon des non-guérissables, pavillon des travailleurs, et tous les isolats. Alors après, quand on avait l'expérience asilaire, moi j'ai eu la chance, donc, premières années avant l'expérience, c'est une chance quand même de voir des trucs comme ça, c'est une chance historique. Bon. Mais après, quand on va en ville, on voit tout de suite les isolats. Le laboratoire qu'est l'asile, c'est des êtres humains qui... Vous allez en ville, vous voyez des isolats. Et vous vous rendez compte que la plupart des problèmes qu'ont les gens actuellement, qui vont des problèmes de la vie de tous les jours, de l'anxiété, de la dépression, parfois des dépressions graves, du suicide et autres, c'est lié mais considérablement à cette histoire d'isolat et au fait que les gens ne communiquent pas entre eux. Ils ont un mal fou à communiquer. Bon, c'est-à-dire la ville fabrique aussi une quantité d'isolants, on le voit de plus en plus maintenant. On a eu la destruction de l'hôpital psychiatrique, dans ce cas-là, il faut s'y mettre à détruire tous les ghettos urbains, et on n'a pas fini. Et ça sert à rien de détruire les ghettos urbains si on ne traite pas. Parce que ça sert à rien de fermer l'hôpital psychiatrique si c'est pour faire un hôpital à l'hôpital général où tout est fermé à double clé et qu'on ne fait pas travail de santé mentale. Qu'on n'est pas attentif à l'autre dans la cité et qu'on ne fait pas attention à ses relais, à ses liens naturels.
Il y a eu une régression. Il y a eu une régression parce que quand la gauche est arrivée au pouvoir avec Mitterrand, donc il y a eu une proposition de loi pour que tous ces lieux alternatifs d'accueil qui s'étaient créés soit conventionnés, qu'ils aient un statut et tout. La loi était prête. Il y avait des membres de la profession qui l'avaient préparée. Il était sur le bureau du ministre. Et puis, bon, Rally était resté peu de temps au ministère de la Santé. Il est parti. Et d'autres ont pris la suite. Et ce projet de loi de conventionnement des lieux alternatifs est passé aux oubliettes. Et en l'espace de 10 ans, plus de 70% de ces lieux d'accueil ont disparu. Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur statut, leur place, leur financement, etc. Donc, c'est une régression, ça a l'air de rien, mais c'est une régression gigantesque par rapport à la qualité d'accueil, à tous les problèmes qui se posaient. Et donc, avec une reprise en main par justement les hôpitaux, le lobby des directeurs, reprise en main, un contrôle de la situation. Donc, il y a toujours des gens qui s'obstinent. Il y a toujours, dans différents secteurs, des gens qui mettent en place des lieux, des possibilités, etc. Et donc, où le travail se continue. Mais en même temps, c'est toujours fragile. Parce que... Là, il y a eu l'histoire du directeur, du rapport entre la gestion centrale à Ville-Évrard et Bondy. À Bondy, dans leur fonctionnement de lieu, d'accueil de jour, il y avait le fait que tout se faisait autour d'un cuisinier. Donc, ils avaient un grand cuisinier africain qui faisait magnifiquement à manger. Et tous les jours, il arrivait le matin à 8 heures. Les patients qui étaient là, ils partaient avec eux, ils allaient faire des courses dans la ville, ils achetaient à manger, ils ramenaient la nourriture, ils préparaient la nourriture, ils discutaient du menu avec eux, aidaient à éplucher les légumes et tout, ils préparaient le repas pour 40 ou 50 personnes, tout le monde mangeait, après ils nettoyaient, ils repartaient, et ils faisaient ça tous les jours. Donc ça faisait partie du fonctionnement thérapeutique du lieu. Lui, il n'était pas un thérapeute, Et les gens de Bondy lui demandaient pas de faire le médecin, juste le cuisinier. Et ce qu'il faisait de façon excellente. C'est une expérience, je crois, qui a 20 ou 25 ans déjà qu'elle existe. Et pour des raisons sanitaires et de rentabilité, ils ont coupé ce poste. Maintenant, il vient une fois par semaine, je crois, si on s'y a négocié ça. On doit tout faire pour parler de la qualité de ces lieux d'accueil. Parce que je crois que c'est central. On ne parle de la folie que pour parler d'un meurtre. D'un mec qui a décompensé en cellule et qui a tué son collègue de cellule. Et donc, l'enjeu principal, là, aujourd'hui, enfin, c'est pour ça, moi, je parlais de cette histoire du cuisinier, je parlais du café Les Temps Mêlés qu'ils ont fait à Morsang-sur-Orge, ou la villa qui accueille à Corbeil-Essonne et des lieux, parce que ces lieux-là posent concrètement la possibilité d'un accueil des patients dans la ville. Et effectivement, on voit quand même que ce qu'avait lancé Bonafé, qu'il fallait justement que la psychiatrie soit de la ville, qu'elle se décentre de la responsabilité psychiatrique, que, comme il disait, que ça devienne, que le secteur devienne une personne morale, eh bien, ça fonctionne dans quelques endroits. Et c'est très important. Parce qu'on est là, juste par rapport à la loi qui est en train de se faire, c'est qu'ils sont en train de refaire des grands pôles hospitaliers dans toute la France. Ça veut dire où 5, 6, 7, 8 secteurs auraient leur lit dans le même endroit, séparés bien sûr, ça ne serait pas les mêmes salles, pas avec les mêmes médecins, mais où ils auraient un plateau de nouveau avec 200 patients, parce qu'il y aurait là toute la technicité dont ils ont besoin pour accueillir les fous, et donc ça serait plus économique parce que ça reviendrait dans le même endroit.
La situation en France est un peu particulière. La France est un peu comme l'Allemagne, la Belgique, les pays qui ont inventé l'asile, retrouvent à avoir encore beaucoup de lits et une concentration asilaire encore forte en Europe. On voit les chiffres. Alors que ceux qui n'ont pas inventé l'asile ont supprimé les hôpitaux psychiatriques depuis bien longtemps. Et nous sommes une sorte de résurgence constante du passé en France. C'est là que c'est parti, la création de l'asile, c'est là que ça se terminera. Il faudra du temps. Parce qu'on a été malheureusement les premiers à lancer cette folle aventure. En France et dans le monde d'ailleurs, puisque partout où la colonisation s'est implantée, les hôpitaux psychiatriques ont suivi. Et parfois, la seule ressource des pays, c'est l'hôpital psychiatrique en termes de santé mentale, puisque c'était un des produits exportables de la colonisation.
On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Si vous êtes intéressé par son travail, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet www.lucien-bonafé.org. Et si vous êtes intéressé par le documentaire qu'a fait Stéphane Gatti autour de son œuvre, vous pouvez le contacter à travers La Parole Errante. Et donc vous cliquez sur internet La Parole Errante et vous pouvez le trouver. Sinon, à part ça, la semaine prochaine, avec Les Oreilles Loin du Front, nous parlerons de l'avortement avec Michel Ferrand.